Quel est le bilan militaire de la première année de la grande invasion que la Russie a commencée contre l'Ukraine? Quelles sont les perspectives de la contre-offensive ukrainienne attendue depuis longtemps? Devrait-on prendre au sérieux le chantage nucléaire russe? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, le général Dominique Trinquan, spécialiste des relations internationales, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Monsieur Trinquan, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Vous commentez cette guerre de la Russie contre l'Ukraine depuis des longs mois déjà. Vous êtes général de l'armée, expert militaire. Votre expertise militaire est tout à fait intéressante et très précieuse dans ce contexte. Alors ma première question serait voilà, votre analyse de la première année de guerre qui est déjà écoulée, cette guerre qui devait durait quelques jours, selon le plan initial de Vladimir Poutine, dure plus d'un an. Quelle victoire provisoire, quelle défaite pouvez-vous constater durant cette première année de guerre?
Alors moi, je parlerai d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, et je parlerai d'abord des trois premières victoires ukrainiennes. La première victoire, c'est tout à fait au début, c'est d'avoir résisté. Je rappelle que tout à fait au début, les Américains ont remballé leur ambassade. Les conseillers ont demandé au président Zelensky de repartir et le président Zelensky a décidé de rester et l'Ukraine a résisté. Ça, c'est la première victoire. La deuxième victoire, c'est qu'après que les Russes aient repositionné leurs forces, en particulier dans le Donbass et dans le sud, l'armée ukrainienne a résisté. Elle a résisté en empêchant une grande offensive russe qui aurait pu aller jusqu'au Dniepr. Je parle au-delà de Zaporijjia. Et puis la troisième victoire, c'est celle qui s'est passée après le mois de septembre, en gros, mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Ce sont les contre-attaques ukrainiennes qui ont été à Kherson et à Kharkiv et qui ont permis de reconquérir du territoire. Maintenant, naturellement, ce qu'on attend, c'est la quatrième victoire, c'est-à-dire celle qui pourrait advenir dans les mois qui viennent, et qui permettrait de reconquérir au moins une partie, mais surtout d'infliger un choc à l'armée russe pour qu'elle comprenne bien qu'elle ne peut pas aller plus loin et qu'elle n'est pas en position de gagner. Ça, ce sont les trois et l'espérance de la quatrième victoire ukrainienne. Du côté des Russes, je pense qu'il y a plusieurs défaites, je ne vais pas les énumérer. Il y a tout à fait au début l'échec du renversement d'un gouvernement, tout bêtement, avec la prise de l'aéroport près de Kiev, qui aurait permis d'aller très rapidement dans Kiev. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une erreur d'appréciation de la part de l'état-major russe et du président Poutine, qui pensait que l'Ukraine ne résisterait pas. La deuxième erreur, c'est après une manœuvre difficile, il faut le reconnaître, de l'armée russe, qui a consisté à ramener toutes les forces dans la région du Donbass et dans le sud, qui a été une réussite, celle-là, ça a été de pouvoir monter une offensive, une vraie offensive. Elle n'a pas été capable de le faire. Et puis, la troisième erreur maintenant, le troisième échec, c'est le fait que depuis plusieurs semaines maintenant, voire des mois, une offensive russe est en cours. Mais personne ne la voit vraiment. On voit du terrain grignoté, beaucoup de pertes, mais pas beaucoup de terrain gagné. Et donc, on voit que les Russes ne sont pas en mesure d'aller plus loin. Et d'ailleurs, aller plus loin, ça veut dire quoi? Quel est l'objectif final de la Russie? Conquérir Kiev? Ils ne peuvent même plus y rêver. Donc, c'est d'essayer de consolider les lignes sur lesquelles ils sont aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'une victoire ukrainienne est nécessaire pour renverser les plans russes d'aujourd'hui.
Oui, à la fois vous avez évoqué cette erreur d'appréciation qui était propre à l'armée russe, mais c'était aussi une opinion, on va dire, assez répandue partout dans le monde. On attendait que l'armée russe face à l'armée ukrainienne, l'armée ukrainienne n'avait pas de chance. Qu'est-ce qui explique, selon vous, les événements majeurs de fin février, début mars, tout le mois de mars 2022, où justement toute une surprise, une armée beaucoup plus petite que l'armée ukrainienne, moins bien armée, n'est-ce pas, on n'avait pas de telle quantité de chars, a quand même pu arriver à avoir cette victoire et de repousser carrément les troupes russes des régions de Kiev, Tchernigiv et Soumy, tout le nord en fait.
Alors moi je crois qu'il y a deux raisons principales. La première sont ce qu'on appelle les forces morales. L'Ukraine défend son territoire. Les Russes, l'armée russe, ne savait pas très bien pourquoi elle était là. Elle pensait qu'elle serait accueillie avec des colliers de fleurs, du pain et du sel, comme on le fait dans la région, et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc les forces morales ukrainiennes sont au cœur de ce sujet-là. Le deuxième point, c'est la capacité de l'armée ukrainienne à s'être complètement transformée. Il se trouve que j'étais en Ukraine, moi, dans les années 2000, et l'armée ukrainienne, à l'époque, était encore une armée très soviétique, si j'ose dire, avec des systèmes hiérarchiques très lourds, avec une incapacité d'innovation, une incapacité d'initiative. Et là, l'armée ukrainienne a montré qu'elle s'est complètement transformée. Et elle s'est transformée à l'intérieur de la société ukrainienne, c'est-à-dire la capacité d'utiliser les moyens de la société civile pour la défense du pays, alors que la Russie n'a pas changé son système. Elle est telle que je l'ai connue avant les années 90. Avant les années 90, j'étais officier opération au 2e corps d'armée français, où nous nous préparions à combattre le pacte de Varsovie en Allemagne. J'étais en Allemagne, la trouée de Fulda. Vous voyez, on était face à ces trucs-là. Et donc, on connaissait par cœur les schémas de déploiement de l'armée soviétique. Eh bien, ils n'ont pas changé. Et puis, ils n'ont pas changé non plus le rapport aux hommes dans l'armée russe, dans lequel il y a très peu d'encadrement de contact, ce qu'on appelle l'encadrement de contact, qui chez nous en France sont les sous-officiers ou les officiers subalternes, n'existe quasiment pas. Et donc, il y a un système rigide et qui fait en plus que pour faire une action, il faut demander à l'échelon supérieur et ça remonte parfois jusqu'au Kremlin. Donc, toutes ces erreurs ont fait qu'on se retrouve face à deux peuples, mais deux armées complètement différentes, avec l'une qui a beaucoup évolué et qui est capable d'obtenir les succès que j'ai décrits précédemment, et l'autre qui n'a pas évolué et qui donc rencontre un certain nombre d'échecs aujourd'hui.
Et ceci malgré la supériorité en termes d'hommes, en termes de matériel aussi. Il ne faut pas quand même dire que l'armée russe, au départ, lors de cette invasion, il avait énormément de matériel, énormément de militaires bien traînés, l'élite, ce qu'on appelle l'élite militaire, qui était détruite lors des premiers mois de cette invasion. En même temps, les événements qui sont enchaînés, donc l'été 2022, cette progression très lente, mais quand même réel, les Sitchansk, Severodonetsk ont été quand même pris, la quasi-totalité de la région de Lugansk a été pris, sauf quelques villages encore, par les Russes. Donc il y a quand même cette attitude. Comment évoluez-vous en tant que militaire, en tant que général, cette attitude russe qui est visible à tout le niveau, que gagner coûte que coûte, c'est-à-dire qu'indépendamment du prix humain qui advient.
Alors, je pense qu'il y a deux choses qui expliquent cela. Au niveau stratégique, le président Poutine a fait une erreur. Il ne veut pas l'admettre et il veut continuer. Il est enfermé dans son raisonnement et donc il ne reculera pas. Le deuxième point, et ça c'est plus surprenant, c'est que l'armée russe avait sur le plan opératif l'aptitude à faire une chose, c'est uniquement renforcer le succès. Le problème, c'est que comme ils n'ont pas renforcé beaucoup de succès, ils ont du mal à renforcer le succès. Donc, ils cherchent le succès partout et ne le trouvent pas. Alors, on a l'opération actuelle à Bakhmout, dont tout le monde parle, qui illustre un peu ce qui s'est passé à Lysychansk et Severodonetsk, hein, où il y a eu des combats extrêmement rudes. Et à l'époque, je disais, mais il y a un moment où il faut arrêter. Mais ces combats extrêmement rudes ont fait que l'usure de l'armée russe ne leur a pas permis d'exploiter leur victoire. Puisqu'il y a eu une victoire à Severodonetsk et Lysychansk. Mais ils n'ont pas eu les moyens de se relancer, d'aller ailleurs. Et là, ce qui se passe à Bakhmout, c'est que ça tient encore plus. La stratégie, je pense, est de trois ordres. La première, c'est l'attrition, diminuer les forces russes. Quand on dit que 7 à 10 russes tombent pour un Ukrainien, ça coûte cher à l'armée russe. La deuxième, c'est de créer un abcès de fixation, c'est-à-dire que les forces russes se concentrent là. Si elles se concentrent là, elles ne sont pas ailleurs. Ça permet de préparer une offensive ailleurs. Et le troisième point, c'est naturellement un point moral que le président Zelensky a souligné il n'y a pas très longtemps. Il a dit on ne doit pas lâcher parce qu'on doit montrer qu'on est capable de tenir. Voilà. Ces trois éléments sont des éléments du succès actuel de l'armée ukrainienne qui lui coûte cher. Beaucoup de soldats qui meurent, beaucoup de soldats qui sont blessés. Mais au bout du compte, les Russes payent plus. Et donc, ça use beaucoup plus l'armée russe qui commence à se poser un certain nombre de questions, y compris le fameux groupe Wagner, qui considère qu'il n'a pas remporté la victoire qu'il voulait rencontrer et que peut-être il devrait se concentrer ailleurs.
Quelle serait votre lecture déjà de présence de groupe Wagner, qui est d'ailleurs légalement déjà un groupe interdit, parce que selon les lois russes, les groupes paramilitaires sont interdits, mais sur le terrain, on le voit, leur chef Prigogine, qu'on l'appelle communément cuisinier de Poutine, est bien là, il est recruté largement dans les prisons, ce qui est aussi une pratique interdite, n'est-ce pas, dans plusieurs pays. Alors, comment expliquez-vous, du point de vue strictement militaire, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait d'un côté une armée régulière, normale, classique en quelque sorte, et d'autre part ce groupe, cette armée privée, ce groupe paramilitaire, parce qu'on connaît qu'il y ait quand même pas mal de désaccords et pas mal de rivalités entre ces deux groupes. Et qu'est-ce que ça apporte au plan militaire ?
Alors le premier point, vous avez raison, si ceci est possible, ça n'est possible qu'à cause des accords ou de la connivence, disons, entre le président Poutine et Prigogine. Tous les deux des mafieux, clairement, à des niveaux différents, mais des mafieux. Maintenant, il faut se souvenir que Wagner, c'est avant tout du business. Le business, il le fait en Libye, au Mali, en Centrafrique. Il gagne de l'argent, là. En Ukraine, il perd de l'argent. C'est un investissement qu'a fait Prigogine pour se hisser au niveau politique à un niveau plus important. Pour ceci, il devait gagner Bakhmout. Il a obtenu de recruter dans les prisons. Il a obtenu d'être livré en armement par l'armée russe. Mais il a beaucoup agacé l'armée russe. En particulier, son accord avec Surovikin, le général Surovikin, au mois de novembre, quand le général Surovikin a décidé d'évacuer Kherson, a agacé les autres généraux. Et le président Poutine a remis un peu les points sur les i en remettant le général Shoigu responsable, en rétrogradant Surovikin, le général Gerasimov et le ministre de la Défense, Shoigu. Ce sont eux les vrais maillons avec le président Poutine. Et eux deux ont commencé à couper l'armement, couper les munitions de Prigogine. Prigogine a engagé ses forces, en particulier les prisonniers, et en a perdu énormément. Et aujourd'hui, il n'a plus tellement de force à opposer. Et en fait, il a annoncé il n'y a pas très longtemps, de reconsidérer son action dans le monde. Ça veut dire de revenir au business, là où il fait de l'argent. Mali, Centrafrique, Libye. Et peut-être d'avoir moins d'action en Ukraine, parce qu'il a perdu beaucoup de moyens et que ça ne lui a pas procuré l'escalade politique. Même si sur le plan médiatique, il faut reconnaître qu'il en a beaucoup fait.
Oui, parce que c'est leur stratégie aussi d'être présent du point de vue médiatique. Parlons de livraison d'armes, question brûlante pour l'Ukraine depuis tout le début, puisque l'Ukraine, au moment d'affronter la Russie, cette grande invasion avait très explicitement moins de moyens que l'armée russe. Les armes ont commencé à venir petit à petit vers printemps, été 2022. Ils continuent à arriver aujourd'hui en attendant cette grande contre-offensive dont tout le monde parle. mais à la fois on constate depuis l'Ukraine qu'il y a toujours cette question de retard, du rythme un peu trop lent vu de l'Ukraine par rapport à ses livraisons d'armes. Comment expliquez-vous, du point de vue militaire, d'où viennent voilà, ces raisons-là de livrer goutte à goutte, hein, en quelque sorte, de ne pas livrer tout à tout moment, et puis on aurait pu peut-être avoir des chars encore en été 2022 et pas au printemps 2023.
Alors je crois que la première raison, c'est que les Occidentaux ne croyaient pas dans cette attaque. Et donc, il a fallu un certain temps pour réaliser tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette guerre est faite en Ukraine sous le parapluie nucléaire russe. La Russie est protégée par la dissuasion nucléaire. Et d'une certaine façon, les Occidentaux ne savaient pas jusqu'à quel point la menace nucléaire russe était réelle ou pas. Et donc, il y avait une certaine timidité, froideur, peur, comme vous voulez, à s'engager complètement au regard des réactions russes. Et au fur et à mesure de l'augmentation de l'aide, on s'est aperçu que les Russes ne réagissaient pas vraiment. Et du coup, l'Europe y est allée, et les Américains y sont allés de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand je disais que les Européens, là je parle des Européens, n'y croyaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas équipés pour le faire. L'Europe n'a pas d'Europe de la défense. C'est l'OTAN. Mais l'OTAN s'est fait pour quoi ? Pour défendre les pays de l'OTAN, pas pour aider un pays à l'extérieur, comme l'Ukraine. Et donc c'est l'Union européenne qui a dû se modifier. Et moi, je tire un coup de chapeau, parce que l'Union européenne s'est modifiée très très rapidement. Elle a réussi la Facilité européenne de paix, sur laquelle je travaillais, qui était faite pour l'Afrique, à transformer tout ça d'un seul coup. Aujourd'hui, à voter 2 milliards d'euros pour fournir 1 million d'obus pour la fin du mois de mai. Enfin, tout ça, c'est des révolutions extraordinaires. Les gens ne réalisent pas. Il y a encore un an et demi, en Europe, on discutait sur la possibilité de livrer des armes. Il y avait des pays qui disaient non, jamais, jamais on livrera d'armes. Et d'un seul coup, en 15 jours, oui, on peut livrer des armes. Non seulement on peut les livrer, mais l'Europe va les payer. Donc il y a une révolution extraordinaire. Donc, si vous voulez, il y a un bouleversement complet de ce qui se passait en Europe, sous la pression des événements, et moi je comprends très bien que pour les Ukrainiens ça paraisse long, mais c'est une révolution qui était inattendue. Et ça va changer beaucoup de choses dans l'avenir pour l'Europe.
Oui, il y a un parti pris aussi, un engagement. Après toutes les livraisons d'armes, il y a aussi un engagement que, étant donné que les armes sont déjà livrées en quantité considérable, et peut-être même quantité de masse, on va le voir, l'Europe ne peut plus perdre cette guerre, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Parce que quand on se pose à côté d'un côté avec l'Ukraine, on ne peut plus permettre que Poutine emporte cette guerre. Donc les armes vont encore venir.
Alors vous avez raison, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis ne peuvent pas perdre cette guerre avec l'Ukraine. Mais qu'est-ce que ça veut dire que gagner la guerre ? Qu'est-ce que ça veut dire que perdre la guerre ? Là est toute la question. On ne peut pas perdre cette guerre. Mais d'une certaine façon, la Russie peut-elle perdre cette guerre ? C'est extrêmement compliqué. Jusqu'où aller ? La décision politique du président Zelensky, c'est jusqu'aux frontières de 91. Légalement, il a parfaitement raison. C'est légalement la position. Est-ce que tout ira jusque-là ? Est-ce que l'offensive sera capable d'aller jusqu'à ses frontières ? Est-ce que le bouleversement qu'une offensive victorieuse pourrait procurer en Russie amènera à cette conclusion-là, ça sort de mes compétences militaires. Mais c'est vrai que, vous avez raison, ni l'un ni l'autre ne peuvent perdre la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire que gagner ? Qu'est-ce que ça veut dire que la victoire ? Qu'est-ce que ça veut dire que perdre ? C'est extrêmement difficile à établir.
Oui, mais quand vous dites que la Russie ne peut pas perdre la guerre, c'est un argument souvent prononcé, c'est qu'un état nucléaire ne peut pas perdre la guerre. N'est-ce pas ? Mais à la fois, on a déjà vu que la Russie avait déjà perdu la guerre, pas la Russie, mais l'Union soviétique, en étant un état nucléaire, n'est-ce pas, avait bien perdu la guerre en Afghanistan, et rien ne s'est passé, donc il n'y avait pas de frappe nucléaire, ni quoi que ce soit. Il est quand même possible, donc hypothétiquement, bien sûr, on est dans la spéculation, que la Russie, tout aussi bien, peut perdre la guerre, même en étant protégée par cette parapluie nucléaire. Et donc, d'ailleurs, cette question de nucléaire, elle nous intéresse beaucoup. Vous avez déjà évoqué que les Européens ont changé quand même même cette, ils ont vu, constater d'abord sur le terrain que l'augmentation des envois des armements n'induit pas tout de suite les frappes nucléaires de la part de la Russie. Est-ce que, quelle serait votre évaluation pour l'avenir? Quelle chance que la Russie puisse employer d'une manière ou d'une autre les nucléaires, qu'ils soient tactiques ou stratégiques? Ce sont deux choses différentes.
Alors, avant de parler de ça, oui, la Russie est protégée par la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire le territoire russe. Ça ne veut pas dire que l'armée russe ne peut pas perdre en Ukraine. C'est quelque chose de différent. Ensuite, sur l'armement nucléaire, je pense que l'armement nucléaire cherche à toucher nos sociétés, à faire peur à nos sociétés. Et le discours, la communication nucléaire, aussi bien sur le déploiement d'armement tactique en Biélorussie que sur les manœuvres stratégiques qui sont faites actuellement, c'est fait pour faire peur. Et moi, je dis toujours aux populations européennes, je cite le Saint-Pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Parce que tant que nous n'avons pas peur, ils sauront qu'ils n'ont pas d'impact sur nous. Et s'ils n'ont pas d'impact sur nous, eh bien, la menace nucléaire restera une menace. Maintenant, j'en discutais hier avec Dominique Moisy, et je disais, ça n'exclut pas un coup de folie. Ça n'exclut pas une action suicidaire. Et ça, ce sont des Russes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, attention, vous savez, la mentalité russe, ce n'est pas la mentalité des Occidentaux. Et une attitude suicidaire, ce n'est pas impossible. Donc, il ne faut pas l'exclure. Mais jusqu'au bout, il faut croire que parce que nous maintenons notre position, l'arme nucléaire ne sera pas utilisée. Il faut reconnaître que la Chine nous aide dans ce domaine-là, parce que la Chine a clairement dit à M. Poutine, pas de nucléaire. Parce que si l'armement nucléaire était utilisé, ça serait la fin de la dissuasion. La fin de la dissuasion, c'est ce qui permet à un certain nombre de pays de survivre. Je pense à la Chine, je pense à la Russie elle-même, je pense à la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui sont des puissances nucléaires et qui comptent sur le fait que, contrairement à ce que les gens pensent, l'arme nucléaire, ce n'est pas la guerre. L'arme nucléaire, c'est la paix. Et, pour en venir à l'armement tactique, c'est faire croire qu'on peut faire la guerre nucléaire. Et ça, je pense que c'est à évacuer tout de suite. Le général de Gaulle, quand on lui posait la question du tactique et du stratégique, disait « tactique, stratégique, arrêtez de m'emmerder, tout ça c'est du nucléaire ». Et il avait raison.
Oui, tout à fait. Tout à fait, cette arme était conçue comme l'arme de la paix, mais malheureusement, justement, il y a cette rhétorique-là qui tourne autour, et Vladimir Poutine, après avoir parlé avec le leader de la Chine, donc c'était justement après, déjà, le départ de leader chinois chez lui, qu'il déclare que les armes nucléaires tactiques peuvent être placées en Biélorussie. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens, peut-être du point de vue militaire, mais c'est vrai que cette arme de pression psychologique, logique, d'intimidation de populations européennes, elle est toujours sur place. Mais c'est bien que rester dans le raisonnable, même si le risque de l'escalade est toujours là, qu'il soit nucléaire, parce que on peut jamais exclure le hasard, même si on se dit que c'est pas Poutine personnellement qui presse un bouton, qui a des missiles, n'est-ce pas? Donc il faut quand même un certain nombre des gens qui sont impliqués, et on peut aussi compter sur une action censé d'un officier qui fera pas, qui va pas obéir aux ordres. C'est aussi important. Le nucléaire, c'est un gros sujet. Aussi une question. Vous avez dit une chose que faire perdre l'armée russe en Ukraine, ce n'est pas la même chose qu'attaquer la Russie directement. Mais chose importante politiquement, c'est que pour Poutine, pour les Russes, une grande partie de l'Ukraine, c'est déjà la Russie. Regardez ce qui se passait avec les annexions, avec les faux référendums au mois d'août et septembre. Pour eux, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk et Crimée, ils bénéficient maintenant du statut de la Russie. Chose intéressante, c'est que Kherson a été libéré par les Ukrainiens après les référendums, et rien ne s'est passé. Et donc, on se pose des questions. Donc, il a fait un mauvais service, en quelque sorte, pour lui-même, parce que après ces annexions-là, il n'y a pas de différence de nature entre, par exemple, Crimée, terre sacrée pour le mythe russe, et la rive, on va dire, la rive gauche de Kherson, ça va être ça. C'est la même nature. Et on ne voit pas qu'il n'y avait pas de réaction, mais formellement, pour eux, tout ceci, c'est le territoire russe. Donc on peut s'attendre à tout moment une réaction s'il y a une contre-offensive ukrainienne.
Mais pour l'instant, on l'a bien vu, après les contre-attaques qui ont eu lieu en septembre-octobre, c'était après la déclaration du président Poutine. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Donc je crois qu'il faut aller au-delà du déclaratoire. Le deuxième point, c'est que, si vous voulez, nous, on ne peut pas se placer dans la psychologie supposée des Russes. On se pose sur la position du droit international. La Russie a reconnu les frontières de l'Ukraine en 1991. Je crois que c'était l'accord de Bratislava. Ces accords, c'est le fondement. Et la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, doit respecter le droit international. C'est tout. Il n'y a pas à discuter.
Oui, mais entre-temps, ils ont aussi signé le mémorandum de Budapest, le moment où l'Ukraine avait rendu tous les armes nucléaires, ou contre les garanties de sécurité, qu'on ne sera pas attaqué ou on est attaqué par un signataire. Et donc, ils ont changé la constitution, attention, ils ont changé la constitution. Et donc, dans leur constitution aujourd'hui, Kherson, Zaporizhia, qu'ils ne contrôlent même pas, qu'ils ne savent pas d'ailleurs où sont trouvent les frontières. D'ailleurs, personne ne sait, selon eux, où sont les frontières et où est-ce que ça s'arrête la Russie, où ça commence l'Ukraine. Et sans doute, ma dernière question, cette thématique qui m'intéresse, vous êtes militaire. Vous avez fait la carrière militaire. Comment évaluez-vous l'armée ukrainienne et cette performance qui est là, et quel avantage et quel problème aussi que vous pouvez constater à ce moment-là, puisque la guerre n'est jamais gagnée avant d'être gagnée. Donc on a beau dire que la contre-offensive va avoir du succès, mais pour l'instant on est dans l'inconnu, on est devant un avenir qu'on ne connaît pas.
Oui, alors je pense que d'abord, il se trouve que j'ai participé à des groupes qui étudient les leçons apprises, ce qu'on appelle les leçons apprises de la guerre. Et tout le monde est frappé par le fait que l'armée ukrainienne, depuis 2014, s'est complètement réformée. Elle a mis des gens jeunes à la tête de l'armée ukrainienne et qui ont des capacités à la fois d'innovation, mais aussi de perméabilité entre ce qui se fait dans le civil et le militaire. Et ça, c'est très important dans le domaine de l'utilisation des moyens, par exemple, des moyens numériques. Ça a très bien marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que jusqu'à maintenant, les forces morales ukrainiennes ont permis de tenir. Maintenant, au bout d'un an de guerre, du nombre de morts, du nombre de blessés, moi, je comprends qu'il y ait une fatigue qui s'installe. Et c'est le président du Conseil, Clémenceau, qui, pendant la Première Guerre mondiale, disait « Celui qui gagnera, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure. » Et c'est ce qu'il faut espérer. Que tout le monde arrive à tenir le dernier quart d'heure. C'est le dernier moment où la victoire est remportée. Et c'est difficile, ça use. On est dans des sociétés, je parle surtout des sociétés d'Europe occidentale, dans lesquelles le sacrifice n'a plus beaucoup de signification. Et pourtant, je dis toujours que la liberté a un prix, et il ne faut pas s'imaginer que la liberté se défend toute seule. Il faut la défendre. Et donc, ça mérite les efforts qui sont faits pour les générations futures. J'écoute avec attention tous les gens qui parlent à propos de la guerre en Ukraine, en disant qu'on l'a fait aussi pour les Russes, pour que, d'une certaine façon, les choses changent chez eux. Il faut absolument que cette mentalité change, que les gens comprennent qu'on doit respecter le droit et qu'en respectant le droit, on installe une paix plus longue à venir.
Oui, merci. Ça sera un long processus, pas tellement militaire que politique, idéologique, un travail idéologique qui peut durer, on peut imaginer, des années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus très long. Mais oui, donc ça, on espère que cela va changer et que les soldats ukrainiens tiendront le coup face à cette épreuve qui dure depuis longtemps, qui va encore durer, puisqu'ils voient clairement le sens, en fait, le sens de cette résistance, le sens de ce sacrifice et le rapport entre le présent et le futur. Donc ils sacrifient leur vie pour qu'il y ait de l'avenir pour les générations futures, pour leurs enfants, pour leurs femmes, qui sont derrière et pour la liberté. Donc tout ça, toi, son prix. Merci beaucoup, Général Trinquant, pour votre éclairage, pour cet entretien extrêmement enrichissant et fondamental. Et merci beaucoup.
Juste un petit mot, de soldat à soldat, j'applaudis les soldats ukrainiens. Je lisais il n'y a pas longtemps des livres sur ce qui se passait en France dans les tranchées en 1914, qui ont réussi à nous rendre notre liberté en France. Eh bien, je leur souhaite la même chose, qu'ils tiennent. Et bravo, chapeau à eux.
Merci. C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.